L'édition imprimée du troisième volume du Seigneur des Anneaux comporte 6 appendices. Les légendes, chroniques et savoirs anciens qui y sont exposés permettent d'illustrer la guerre de l'anneau et ses origines. La longueur et la complexité de ces pages ne nous permettant pas d'en faire un enregistrement intégral, nous ferons ici la lecture de l'appendice A en quasi-totalité, elle dresse les annales des rois et des dirigeants, et de l'appendice F qui aborde la langue des peuples du Troisième Âge. Appendice. Chapitre 1. Les rois Numénoréens. Numénor. Fëanor était le plus grand des Eldar en savoir et en artifice, mais aussi le plus fier et le plus entêté. Il fabriqua les trois joyaux, les Silmarilli, et les emplis de la lumière des deux arbres, Telperion et Laurelin, lesquels éclairaient le pays des Valar. Les joyaux furent convoités par Morgoth, l'ennemi, qui les déroba, et après avoir détruit les arbres, les emporta en terre du milieu, pour les conserver dans sa grande forteresse du Thangorodrim. Contre la volonté des Valar, Fëanor quitta le royaume bienheureux et s'exila en terre du milieu, entraînant une grande partie de son peuple à sa suite. Car dans son orgueil, il se proposait de reprendre les joyaux à Morgoth par la force. S'ensuivit alors la guerre désespérée des Eldar et des Edain contre le Thangorodrim, dans laquelle ils finirent par être complètement défaits. Les Edain, Atani, sont les trois peuples des hommes qui, arrivés les premiers dans l'ouest de la terre du milieu et au rivage de la Grande Mer, se firent les alliés des Eldar contre l'ennemi. Il y eut trois unions entre Eldar et Edain, Lúthien et Beren, Idril et Tuor, enfin Arwen et Aragorn. Par cette dernière union, les rameaux longtemps séparés des semi-elfes furent réunis et leur lignée rétablie. Lúthien Tinúviel était la fille du roi Thingol Capgris du Doriath, au premier âge, mais sa mère était Melian du peuple des Valar. Beren était le fils de Barahir de la première maison des Edain. Ensemble, ils arrachèrent un Silmaril de la couronne de fer de Morgoth. Lúthien devint mortel et fut perdu pour la gente elfique. Elle eut Dior comme fils, et lui eut une fille, Elwyn, qui conserva le Silmaril. Idril Celebrindal était la fille de Turgon, roi de la cité cachée de Gondolin. Tuor était le fils de Uor de la maison de Hador, la troisième maison des Edain et la plus renommée dans les guerres contre Morgoth. Earendil, le marin, était leur fils. Earendil épousa Elwing, et, avec le pouvoir du Silmaril, il traversa les ombres et vint dans l'ouest absolu. Et, parlant en qualité d'ambassadeur tant pour les elfes que pour les hommes, il obtint l'aide qui permit de renverser Morgoth. Et Earendil n'eut pas la permission de retourner dans les terres mortelles, et son navire portant le Silmaril fut lancé au firmament pour y naviguer, comme une étoile et un signe d'espoir pour les habitants de la terre du milieu qui vivaient sous le joug du grand ennemi ou de ses serviteurs. Seuls les Silmarilli préservaient l'ancienne lumière des deux arbres de Valinor avant que Morgoth n'eût empoisonné ceux-ci. Mais les deux autres joyaux furent perdus à la fin du Troisième Âge. Le récit complet de ces événements, et bien d'autres choses encore au sujet des elfes et des hommes, sont racontés dans le Silmarillion. Les fils d'Earendil étaient Elros et Elrond, les Peredil ou semi-elfes. Eux seuls perpétuèrent la lignée des chefs héroïques des Edain au premier âge. Et après la chute de Gil-galad, leurs descendants furent aussi les seuls représentants de la lignée des rois hauts elfiques en terre du milieu. À la fin du premier âge, les Valar présentèrent aux semi-elfes un choix qui les lierait irrévocablement à un peuple ou à l'autre. Elrond choisit le peuple des elfes, et il devint un maître de sagesse. On lui accorda ainsi la même grâce qu'à ceux des hauts elfes qui demeuraient encore en terre du milieu, celle de pouvoir quitter les terres mortelles lorsqu'enfin ils seraient là. Prendre la mer au Havre gris et passé dans l'ouest absolu. Et cette grâce subsista après que le monde fut changé. Mais les enfants d'Elrond se virent également imposer un choix, soit de quitter avec lui les cercles du monde, soit d'y demeurer pour devenir mortel et mourir en terre du milieu. Aussi toutes les issues de la guerre de l'anneau étaient-elles pour Elrond autant de pénibles dénouements. Elros choisit le peuple des hommes et demeura parmi les Edain. Mais une grande longévité lui fut conférée bien au-delà de celle des hommes moindres. En compensation des souffrances endurées dans la lutte contre Morgoth, les Valar, les gardiens du monde, offrirent aux Edain une terre où ils pourraient vivre loin des périls de la terre du milieu. La plupart d'entre eux prirent donc la mer, et, guidés par l'étoile d'Elendil, ils arrivèrent à la grande île d'Elena, la plus occidentale des terres mortelles, où ils fondèrent le royaume de Númenor. Au centre du pays se dressait une montagne, le Meneltarma, et au sommet, ceux qui avaient la vue longue pouvaient discerner la tour blanche du havre des Eldar à Eressëa. De là, les Eldar se rendirent auprès des Edain et les enrichirent de leur savoir, ainsi que de nombreux présents. Mais les Númenoréens étaient soumis à un commandement, l'interdit des Valar. En aucun cas, ils ne devaient faire voile à l'ouest jusqu'à perdre de vue leur propre rivage, ni tenter de débarquer sur les terres immortelles. Car bien qu'une grande longévité leur eût été octroyée, à l'origine trois fois plus grande que celle des hommes moindres, ils étaient contraints de demeurer mortels, les Valar n'étant pas autorisés à leur retirer le don des hommes ou le destin des hommes, comme on l'appela par la suite. Elros fut le premier roi de Númenor, est connu désormais sous le nom haut-elfique de Tar Minyatur. Ses descendants, s'ils avaient la longévité, n'en étaient pas moins mortels. Plus tard, quand ils devinrent puissants, ils vinrent à regretter le choix de leur ancêtre, désirant l'immortalité pour la durée du monde, soit le sort réservé aux Eldar, et murmurant contre l'interdit. Ainsi naquit leur rébellion, qui, nourrie par les mauvais enseignements de Sauron, amena la chute de Númenor et la ruine du monde ancien, comme il est raconté dans la Calabeth. Voici les noms des rois et des reines de Númenor. Elros Tar Minyatur, Vardamir, Tar Amandil, Tar Elendil, Tar Meneldur, Tal Aldarion, Tar Ankalimei, la première reine régnante, Tar Anarion, Tar Surion, Tar Telperien, la deuxième reine, Tar Minastir, Tar Kiriatan, Tar Atanamir le Grand, Tar Ankalimon, Tar Telemaite, Tar Banimeldei, la troisième reine, Tar Alkarin, Tar Kalmakil, Tar Ardamin. Après Ardamin, les rois prirent le sceptre sous un nom en langue numénoréenne, ou adunaïque. Ar Adunakor, Ar Zimrathon, Ar Sakalthor, Ar Gimilzor, Ar Inziladun. Inziladun changea son nom en Tar Palantir, la longue vue. Sa fille aurait dû être la quatrième reine, Tar Myriel, mais le neveu du roi usurpa son sceptre et devint Ar Pharazôn le Doré, dernier roi des Númenoréens. Les premiers navires Númenoréens revinrent en terre du milieu à l'époque de Tar Elendil. L'aîné de ses enfants était une fille, Silmarien. Elle eut un fils, Valandil, premier des seigneurs d'Adunie, à l'ouest du continent, connu pour leur amitié avec les Eldar. Parmi les descendants de Valandil, on compte Amandil, le dernier seigneur, et son fils Elendil le Grand. Le sixième roi ne produisit qu'un enfant, une fille. Elle devint la première reine. Car la maison royale décréta alors une loi voulant que l'aîné des enfants du roi, homme ou femme, reçût le sceptre. Le royaume de Númenor subsista jusqu'à la fin du deuxième âge sans jamais cesser de croître en puissance et en splendeur. Et dans la première moitié de l'âge, les Númenoréens gagnèrent aussi en sagesse et en félicité. Le premier signe de l'ombre qui devait s'abattre sur eux fit son apparition à l'époque de Tar Minastir, le onzième roi. Ce fut lui qui envoya une grande force au secours de Gil-galad. Il aimait les Eldar, mais les enviaient. Les Numenoriens étaient alors devenus de grands marins, explorant toutes les mers à l'est, mais ils soupiraient de plus en plus après l'ouest et les eaux interdites. Et plus leur vie était bienheureuse, plus ils aspiraient à l'immortalité des Eldar. En outre, après Minas Tirith, les rois se firent plus avides de pouvoir et de richesses. Au début, les Numenoréens étaient venus en amis dans la Terre du Milieu pour enseigner aux hommes moins fortunés qui vivaient sous le joug de Sauron. Mais à présent, ils érigèrent leur havre en forteresse, plaçant de vastes régions côtières sous leur suggestion. Atanamir et ses successeurs levaient un lourd tribut et leurs navires rentraient à Numenor chargés de butin. Ce fut Tar-Atanamir qui le premier s'éleva contre l'interdit, déclarant que la vie des Eldar lui revenait de droit. Ainsi l'ombre s'épaissit, et l'idée de la mort vint assombrir le cœur des gens. Puis, les Numenoréens se divisèrent. D'un côté, il y avait les rois et leurs suivants, éloignés des Eldar et des Valar. De l'autre, il y avait ceux qui s'appelaient les Fidèles. Ils étaient peu nombreux, et ils vivaient surtout dans l'ouest du pays. Les rois et leurs suivants délaissèrent peu à peu l'usage des langues eldarines. Et le 20e roi finit par adopter son nom royal sous forme numénorienne, se faisant appeler Ar-Adunakor, seigneur de l'Ouest. Ce nom était de sinistre augure aux yeux des fidèles, car jusque-là, il n'avait servi qu'à désigner l'un des Valar ou le roi vénérable en personne. Et en effet, Ar-Adunakor se mit à persécuter les fidèles et à punir ceux qui usaient ouvertement des langues elfiques. Et les Eldar ne vinrent plus à Numenor. La puissance et la richesse des Numenoréens continuèrent néanmoins de croître, mais leurs années s'amenuisèrent à mesure qu'augmentait chez eux la peur de la mort et leur joie se ternit. Tar-Palantir tenta de redresser le mal, mais il était trop tard, et Numenor fut la proie de soulèvements et de conflits. À sa mort, son neveu, le chef de la rébellion, s'empara du sceptre et devint le roi Ar-Pharazôn. Ar-Pharazôn le Doré se révéla le plus fier et le plus puissant de tous les rois, et il ne désirait rien de moins que la souveraineté du monde. Il résolut de défier la suprématie de Sauron le Grand en Terre du Milieu, et il finit par partir lui-même avec une grande flotte, débarquant à Umbar. Telles furent la puissance et la splendeur des Numenoréens que Sauron se trouva déserté par ses propres serviteurs. Et il se prosterna devant le roi et lui rendit hommage, implorant son pardon. Alors, Ar-Pharazôn, dans la folie de son orgueil, le ramena à Numenor comme prisonnier. Il ne mit pas longtemps à ensorceler le roi et à se rendre maître de son conseil. Et hormis ce qui restait des fidèles, il eut au fait de dévoyer les cœurs des Numenoréens vers les ténèbres. Et Sauron berna le roi, soutenant que la vie éternelle viendrait à qui prendrait possession des terres immortelles et que l'interdit n'avait été imposé que pour empêcher les rois des hommes de surpasser les Valar. « Mais les grands rois prennent ce qui leur revient de droit, » lui dit-il. Ar-Pharazôn finit par suivre ce conseil, car il sentait ses jours décliner et sa peur de la mort l'avait abêti. Il prépara alors le plus grand armement que le monde eût jamais vu, et quand tout fut prêt, il fit sonner ses trompettes et prit la mer. Et il viola l'interdit des Valar, partant en guerre pour arracher la vie éternelle au seigneur de l'Ouest. Mais sitôt qu'il mit le pied sur les rivages d'Aman le Béni, les Valar se démirent de leur intendance et en appelèrent à l'unique, et le monde fut transformé. Numenor fut renversé et englouti par les flots, et les terres immortelles furent soulevées à jamais hors des cercles du monde. Ainsi périt la gloire de Numenor. Les derniers à la tête des fidèles, Elendil et ses fils, échappèrent à la chute de Numenor sur 9 navires, emportant un semis de Nimloth et les 7 pierres de vision, cadeaux des Eldar offerts à leur maison. Et portés par un vent de tempête, ils furent rejetés sur les rivages de la Terre du Milieu. Là, dans le nord-ouest, ils établirent les royaumes numénoréens de l'exil, l'Arnor et le Gondor. Elendil en fut le grand roi et vécut dans le nord à Anuminas. tandis que le gouvernement du sud fut confié à ses fils Isildur et Anarion. Ils fondèrent là-bas Osgiliath, entre Minas Ithil et Minas Anor, non loin des confins du Mordor, car ils croyaient que la ruine avait amené au moins un bienfait en ce que Sauron lui-même avait péri. Mais il n'en était rien. S'il fut pris dans le naufrage de Numenor, en sorte qu'il perdit la forme corporelle qu'il avait longtemps assumée, Sauron retourna néanmoins en terre du milieu, esprit de haine porté par un vent de ténèbres. Il fut à jamais incapable de reprendre une forme qui parut agréable aux yeux des hommes, aussi prit-il un aspect noir et repoussant, et son pouvoir ne s'exerça plus que par la terreur. Il revint au Mordor et s'itéra longtemps en silence. Mais sa colère fut immense lorsqu'il apprit qu'Elendil, qu'il détestait par-dessus tout, lui avait échappé et qu'il ordonnait à présent un royaume sur ses frontières. Ainsi, au bout d'un certain temps, il décida de faire la guerre aux exilés avant qu'ils ne prennent racine. Lorodruin s'enflamma de nouveau et il reçut au Gondor un nouveau nom, Amon Amarth, le Mont Destin. Mais Sauron frappa trop tôt, avant que sa propre puissance fût restaurée, tandis que celle de Gil-galad n'avait cessé de croître en son absence. Et quand la dernière alliance s'éleva contre lui, Sauron fut renversé et l'anneau unique lui fut dérobé. Ainsi s'acheva le deuxième âge.